Vous écoutez
RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Moi, à titre personnel, je le dis, et je crois que c'est très connu des acteurs du dossier. Je connais ce dossier par cœur, je l'ai mené pendant plusieurs années. À titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison, c'est que si c'est la condition pour que le PSG reste, eh bien, il faut en tirer les conséquences.
Allô Jérôme.
Emmanuel Grégoire, maire de Paris, c'est un des chantiers principaux. La vente du Parc des Princes au PSG est avec nous en direct, Jérôme.
Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté, bonjour. Monsieur le maire. Bon, vous êtes venu déjà dans Rotten sans flamme, mais pas en tant que maire de Paris. Donc déjà, félicitations.
Merci à vous.
Et puis, c'est agréable d'avoir un maire qui a le sport en lui et vous le montrez depuis que vous avez été élu. Donc, comment se passent vos premiers pas?
D'abord, le sport, c'est la partie la plus agréable du mandat, pour tout vous dire, parce que j'ai beaucoup de travail sur plein d'autres sujets, mais heureusement, voilà, j'adore le sport. Paris est une ville de sport, et donc je suis très heureux d'avoir ces dossiers-là à gérer. C'est la partie sympa du job, comme on dit.
Bon, monsieur Grégoire, il y a forcément dans cette partie sympa, le Parc des Princes, parce que ça fait 3-4 ans qu'on en parle, que le PSG, les dirigeants qataris veulent acheter le Parc des Princes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des bonnes avancées sur ce qu'on voit? Déjà, il y a eu un rapprochement avec les dirigeants.
Oui. D'abord, c'est une relation saine et de courtoisie qui s'est rétablie. C'est d'abord une relation de passionné de sport. Moi, j'adore le foot, j'adore le PSG. Je suis très heureux encore de la belle saison qu'ils font, même si, évidemment, demain soir, ce sera une sacrée montagne qu'il va falloir battre. Et donc, on a d'abord rétabli le dialogue. Moi, je vais pas vous dire à l'antenne comment se passent les discussions dans le détail, puisque par courtoisie et par respect vis-à-vis de l'actionnaire, ce sont des réunions techniques confidentielles. Simplement, moi, passer un message de confiance. Je pense qu'on est reparti sur des bases très solides de discussion. Moi, je suis très respectueux des attentes du club en matière de développement sportif et économique. Et puis, je suis le garant, moi, de la défense des intérêts des Parisiens, que j'apprécie évidemment à l'aune des négociations avec le PSG, mais plus largement sur la place du sport professionnel et de la façon dont il peut aider le sport amateur à se développer à Paris. Et si toutes ces conditions sont remplies, je suis raisonnablement très optimiste.
Monsieur Grégoire, on part sur une vente du Parc des Princes?
Oui, en tout cas, c'est une option que j'ai souhaité mettre sur la table. Comme dans l'extrait que vous diffusiez, je l'avais dit pendant la campagne, ça permet d'être transparent. Et j'ai voulu en saisir le Conseil de Paris dès le début du mandat, de façon à rassurer l'actionnaire. Parce que c'est pas une décision qui relève du maire seul. On va pas rentrer dans le détail technique, mais grosso modo, il faut à la fois que moi je sois d'accord, il faut que je puisse être validé par le ministère de l'Économie et des Finances, parce que comme c'est un bien public, les domaines vont venir vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, et heureusement. Et la troisième condition, c'est que le Conseil de Paris donne son aval. Et donc, pour pouvoir reprendre des discussions saines avec le PSG, il fallait que je montre que je dispose au Conseil de Paris, sous des conditions évidemment de contenu ensuite, mais que je dispose d'une majorité pour pouvoir poursuivre les discussions jusqu'au bout et qu'on ne va pas perdre du temps à discuter pour rien.
Emmanuel Grégoire, maire de Paris en direct en Rotten sans flamme.
Comment on estime le prix du Parc des Princes? Est-ce que vous avez une fourchette à nous donner?
Alors, une fourchette, non. Enfin, si je pourrais vous donner une fourchette, ça vaut entre 0 euro et 1 milliard d'euros. Mais je vais vous surtout expliquer la méthode pour comprendre pourquoi c'est pas simple d'abord. Le Parc des Princes, c'est une emprise, c'est une surface. Et si on détruisait le Parc des Princes et qu'on le transformait en programme immobilier, ça vaudrait 1 milliard d'euros. Alors évidemment, on va pas vendre à n'importe quelle condition et on va mettre des prescriptions, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je vais dire que quoi qu'il arrive dans l'avenir, ça devra rester un stade de foot, ça devra rester un stade de foot pour le PSG et mettre des contraintes aux futurs propriétaires. Et du coup, ça sécurise l'avenir du Parc des Princes dans sa destination sportive, mais ça fait perdre de la valeur, évidemment. Et donc, c'est tout l'objet de la discussion. On doit discuter de plein de choses, et notamment de ce prix. Et moi, je me sens très à l'aise avec ce sujet-là, et j'ai eu cette discussion avec l'actionnaire, parce que on va être beaucoup aidé par les services spécialisés, notamment ce qu'on appelle les domaines, qui vont nous aider à valider la valeur du bien. Avant de parler du prix, je crois qu'on, pourquoi on est reparti sur de bonnes bases, c'est qu'on a une vision partagée. C'est d'abord, on veut pouvoir offrir au PSG un écrin digne de son nouveau rang mondial en matière de football. Il y a besoin de moderniser, de renforcer la capacité, etc. Le deuxième sujet, c'est que ce soit aussi un projet bénéfique sur le plan urbain. Vous connaissez bien le quartier entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil. Aux abords du Parc des Princes, c'est un peu inhospitalier et qu'on veut profiter de l'occasion pour en faire un vrai lieu de destination, de loisirs, de sport.
Le fameux projet Porte des Princes dont on a parlé effectivement sur RMC Sport. Mais quand même, sur le prix, ça intéresse aussi les gens qui écoutent et puis vous, forcément, puisque de cet argent, vous allez faire beaucoup de choses. Donc j'imagine quand même qu'il y a une fourchette. Est-ce qu'on peut quand même.
Entre
0 et 1 milliard, est-ce que la fourchette est plutôt Neymar ou autour de 200 millions d'euros plutôt que 50 millions. Voilà. Est-ce qu'on est plus près des 200 que des 500?
Moi, je dois être garant des intérêts des Parisiens. Donc, pour vous le dire différemment, j'ai intérêt à vendre le plus cher possible dans l'intérêt de ce que je veux faire avec, c'est-à-dire financer le sport amateur. On veut créer des équipements sportifs, on veut rénover des équipements. Vous savez, par exemple,
un grand projet. Donc, à moins de 200 millions, vous ne vendez pas, par exemple.
Ça, bon, vraiment, vous ne m'entendrez donner aucune précision.
Mais non, mais je...
on n'est pas c'est un conseil que je vous donne.
Plus, moins, tout ça. Non, et puis surtout, vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce que l'intérêt, c'est que on y arrive. Et moi, ce que je veux faire de l'argent. Et je vais vous donner un exemple. On a des clubs de porte, de ce qu'on appelle les clubs de porte, les grands clubs de foot parisiens qui sont des pépites dans lesquelles sont incubés les talents de demain. On sait que l'Île-de-France est vraiment un terreau de formation grand vivier, et de talents immense pour le football mondial. Mais quand vous êtes parent et que vous avez vos enfants qui jouent dans ces stades, souvent il n'y a même pas une tribune couverte pour aller voir les jouer le dimanche. Et ben l'argent du Parc des Princes, le QSI, l'actionnaire, n'a pas besoin de moi pour rénover le Parc des Princes. Par contre, il a besoin de l'argent public pour créer des gradins dignes de ce nom dans tous nos équipements sportifs, pour créer des gymnases, pour créer des aménités pour le sport amateur. C'est aussi à ça que ça sert l'opération. C'est que le sport professionnel, qui a les moyens, eh bien, puisse utiliser en effet de levier des choses qui bénéficieront au club amateur. Parce que voilà, le PSG, dans 20 ans, il se construit avec les gamins qui vont naître demain et tous ceux qui sont dans les jeunes sections entre U10 et U16. C'est des bons clubs de formation initiale où les gamins découvrent la passion du foot et progressent avant peut-être d'intégrer des centres de formation. Pour qu'on ait de bons centres de formation, il faut qu'on ait de bons clubs amateurs qui détectent et qui accompagnent de la discipline, de l'engagement.
S'il te plaît.
Vas-y, Eric.
Non, monsieur le maire, moi j'attends puisque François veut connaître la valeur.
Je suis pas le seul.
Mais moi je pense que le débat il est pas financier pour moi. Le débat il est plus philosophique et c'est souvent le débat qu'il y a eu dans les grandes villes qui ont eu ce problème-là. Bon, moi j'ai été élu à la mairie de Marseille, ce problème a été aussi à un moment donné évoqué. Et c'est plus un problème philosophique, c'est-à-dire est-ce qu'une ville doit vendre ses bijoux de famille? Est-ce que moi c'est surtout sur ça que j'ai envie de vous attendre, parce que le maire de Marseille par exemple n'a jamais voulu, c'est-à-dire que si vous vendez le Paris des Presses, ça veut dire que tout est à vendre à Paris. Est-ce que ça appartient à tous les Parisiens? Voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant surtout dans l'histoire.
C'est un très bon raisonnement et c'est exactement le mien. Quand il s'agit d'avoir des actifs pour une collectivité, mais c'est le cas pour l'État, la question c'est est-ce qu'il y a besoin de l'argent public, c'est-à-dire des impôts, pour financer cela, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire à votre place? Est-ce qu'on pense vraiment que dans les conditions des finances publiques du pays et des communes, c'est le rôle des communes d'investir dans des clubs de professionnels de football? Et d'ailleurs, dans quasiment tous les pays du monde, et ma référence est en Europe, c'est rarissime le modèle de la propriété communale des stades. Tout simplement parce que les investissements sont tellement vertigineux que moi je n'oserais pas présenter aux Parisiens une copie dans laquelle j'explique qu'il faut investir 1 milliard ou 1,5 milliard d'euros pour un club de foot professionnel. J'ai bien d'autres choses à faire avec cet argent-là. Et je le dis dans un accord gagnant-gagnant, avec un sport professionnel qui n'a pas besoin de notre argent pour se développer, qui par contre a besoin de l'argent public pour payer tout ce qui est le sport amateur, pour faire émerger les talents. Et donc c'est un sujet de priorité. Le Parc des Princes est un stade vieillissant. Il a été construit au début des années 70. Il a fait l'objet d'une première rénovation. Il a été repimpé, vous le savez, au début de l'arrivée de QSI. Mais aujourd'hui, il va demander dans les années qui viennent de très nombreux investissements. Eh bien, puisqu'il y a des gens qui peuvent le faire intelligemment à notre place, autant concentrer et mettre l'argent public dans les endroits où c'est
essentiel. Mais monsieur le maire, ça, ils le feront. Ils feront ces investissements-là que s'ils sont propriétaires du
J'ai bien compris, et vous comprenez que c'est aussi la raison pour laquelle, j'avais toujours dit que le bail emphytéotique pouvait être une option, mais enfin, il se trouve que si ils n'acceptent de faire les investissements que si on leur vend, et honnêtement, on peut avoir un débat philosophique, mais le modèle économique des grands clubs européens repose sur la propriété du stade dans lequel ils font des investissements qui se comptent en plusieurs
sauf que souvent ils le construisent, monsieur le maire. D'euros.
Ouais, parce que là, il y a un risque aussi, monsieur le maire. Parce que, en fait, bon, moi, vous connaissez mon attachement au Paris Saint-Germain,
et
au Parc des Princes. Donc, vous pouvez être le maire à la fois qui développe le Paris Saint-Germain, d'autant plus en lui permettant de rester au Parc des Princes. Mais vous pouvez être aussi le maire qui a fait fuir le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est quand même, ça peut être terrible quand même.
Oui. Enfin, oui, vous comprenez bien que c'est un élément que j'ai pris en compte dans le fait que je sois ouvert à la vente. Encore une fois, je pense que ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club, aujourd'hui, il a un immense succès sportif. Il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris, vous le savez, dans une compétition internationale d'image et de force des grandes marques des clubs européens. J'ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes, que ce soit l'occasion d'investir, parce que je pense que ce serait dommage, ce serait pas une catastrophe, mais ce serait évidemment dommage qu'il parte. Donc je vais tout faire pour que nous y arrivions, et je pense vraiment que c'est
Parce que derrière il faut l'entretenir, le Parc des Princes.
Imaginez
le PSG qui part, qui va entretenir le Parc des Princes.
Il partira jamais. Mais quoi, tu veux qu'il parte pour que le Paris FC vienne derrière, les gars?
Vous réfléchissez à voix haute sur le plateau sur toutes les questions qu'on s'est posées, avec les pour, les contre.
Monsieur Grégoire, vous avez, à votre avis, il y a combien de pourcentage de chances pour que le PSG reste au Parc des Princes aujourd'hui?
On aime les chiffres dans Rotten sans flamme.
Moi, je dis, allez, à 90%,
99,9%.
Simplement, parce que moi, je suis prêt à faire les efforts pour cela. Je pense que c'est, je laisse l'actionnaire. Moi, ce que je veux, c'est pas mettre la pression à l'actionnaire. Il est libre d'étudier les dossiers. Il y a plusieurs dossiers qui ont été sérieusement instruits, alternatifs.
Massier et Poissy.
Il faut être respectueux de ça. Il faut être respectueux de ça. On va voir comment ça fonctionne. En tout cas, j'ai voulu donner des gages de dialogue sincère, crédible et sérieux. Je ne vendrai pas à n'importe quelle condition. Je pense qu'ils n'achèteront pas.
Et du coup, il va falloir vendre un lieu au Paris Football Club, du coup.
Ça c'est un autre sujet, et vous me réinvitez
si vous vendez déjà un club, le Paris FC va pouvoir venir vous voir en vous disant nous aussi, on veut notre lieu.
Tous les actionnaires n'ont pas du tout la même approche ce sujet. C'est pas à moi de m'exprimer d'ailleurs sur les choix de l'actionnaire du PFC. Ce que je sais, c'est qu'on a un deuxième club professionnel à Paris. Moi, je raisonne plus en Grand Paris. J'intègre le Red Star dans ma réflexion, etc. Ce sont des super clubs. Il y a de la place pour tout le monde. À Londres, dans le Grand Londres, il y a entre 7 et 9 clubs professionnels. On est bien capable d'en avoir 3 ou 4 dans le Grand Paris. Donc, il y a de la place pour tout le monde. J'accompagnerai aussi le développement stratégique du PFC.
Juste une dernière question avant de vous libérer, puisqu'on est à 50 jours de France-Sénégal, premier match de la Coupe du Monde, et c'est un sujet qui intéresse les supporters des Bleus qui ne vont pas faire le déplacement aux États-Unis. Est-ce qu'à Paris, est-ce qu'il est prévu des fan zones pour assister à ces matchs-là, et où est-ce qu'elles seront installées si c'est le cas?
Ce serait tout à fait mon souhait. Il y a plein de discussions à avoir, parce que c'est pas une décision qui relève seulement de moi, mais aussi d'un dialogue avec la préfecture de police dans un climat qui est pas simple. On a aussi un sujet, c'est qu'évidemment, compte tenu du lieu de la Coupe du Monde, on a des horaires décalés avec des horaires parfois très tardifs de match qui nous interdisent de faire des fan zones en proximité d'habitation ou alors à 3h du mat.
Est-ce que des bars vont pouvoir ouvrir à cette heure-là?
Ça sera soumis à des discussions et à des réglementations, mais aujourd'hui je peux répondre que non. Il y a une barre qu'ici il a des autorisations spéciales, mais tout, en tout cas vous dire qu'on est sur le dossier. Moi, oui, j'ai le souhait qu'il y ait une fan zone qui puisse retransmettre les matchs et le faire en toute sécurité, en protection évidemment des nuisances pour les riverains. Et ensuite, on a un dialogue avec la préfecture de police, parce qu'il y a des atypies entre les matchs de 21h, de 23h, et voire même certains dans la nuit, pour certains matchs de poule. Et donc on est dessus et on veut que cette Coupe du Monde, même si elle a l'inconvénient d'horaire décalé, puisse être une belle fête aussi à Paris et partout dans le pays.
Vous viendrez nous l'annoncer pour les fans.
Je vous dis quand même, parce qu'on n'a pas voisé l'hôtel de Villan, demain on a un super club face à nous. 10 victoires sur 11 matchs en Ligue des Champions, donc il va falloir que demain soir ils soient au taquet. Donc modestement, on a mis des grandes banderoles sur l'hôtel de Lille pour leur donner de la force.
Vous serez au stade demain, monsieur Grégoire.
Je serai au stade demain.
Comme ça permettra de parler argent.
On se verra et on se verra aussi à la fan zone, parce que m'oubliez pas, si vous êtes à la fan zone sur Paris, l'émission Rotten sans flamme sera au cœur de la fan zone.
Avec plaisir. Hein,
merci
avec
beaucoup, merci à Paris. En direct dans Rotten sans flamme.
Ça vous a plu? Foncez, écoutez tout de suite l'intégrale de Rotten sans flamme.